Jour première, sois heureux.
Nous sommes le 26 avril 1986. Le cœur du réacteur numéro 4 de la centrale de Tchernobyl explose. Il prend feu et projette un nuage de radioactivité qui va se propager dans toute l'Europe. Un accident sans précédent qui a émis 100 fois plus de radiation que le bombardement nucléaire des villes japonaises Hiroshima et Nagasaki en 1945. Et aujourd'hui encore, toute la région de Tchernobyl conserve des traces de cette catastrophe. C'est là qu'on vous emmène avec L'herbe de l'oubli, une pièce à voir au théâtre de Poche jusqu'au 3 février, c'est à Bruxelles. Pièce mise en scène par Jean-Michel Daupe, bonjour.
Bonjour.
Et jouée entre autres par Léa Lefel, bonjour. Alors première question Jean-Michel Daupe, une petite explication de titre peut-être, L'herbe de l'oubli c'est quoi?
Donc L'herbe de l'oubli, ça vient de Tchernobyl qui en russe veut dire absinthe. Mmh. L'absinthe c'est l'herbe de l'oubli. Et voilà, et on trouvait qu'effectivement ce sont les grands oubliés de l'histoire. On oublie Tchernobyl et surtout on oublie les gens qui y vivent encore dans cette région.
Ouais, l'absinthe, l'alcool qui rend fou et aveugle, c'est ce qu'on disait à l'époque, ça veut dire quoi? Vous voulez dire que d'une certaine manière, nous aussi, nous sommes aveugles sur cette question du nucléaire?
Complètement, je pense qu'on est vraiment dans une période où on ferme les yeux, on se bouche les oreilles, on ne pense qu'à nous, on pense qu'à consommer, qu'on ne se soucie pas du tout des générations suivantes et ça pose question. Voilà, sur la fermeture des centrales, pour parler en Belgique, pour parler de notre cas à nous, ben voilà, on reporte les dates sans arrêt et rien de concret n'est mis en place, ni pour remplacer éventuellement la fermeture de ces centrales, ni pour le concret de comment on va les fermer, quel coût ça engendrera. On voit beaucoup de débats contradictoires.
On va en parler évidemment de cette actualité que soulève cette pièce. Léa Lefel, c'est plus qu'une pièce de théâtre, c'est un documentaire sur scène, on pourrait l'appeler comme ça?
Oui, complètement. Et donc on a vraiment une immersion documentaire, donc on est parti sur le terrain. On a fait 3 voyages, on est parti une fois en Biélorussie et 2 fois en Ukraine. Toute l'équipe, donc c'était des grands voyages, à chaque fois à raison d'une semaine. Et on a vraiment rencontré beaucoup de personnes qui étaient touchées de près ou de loin par le sujet. Et c'est grâce à ces témoignages, à toutes ces rencontres, ces voyages, qu'on a pu s'inspirer et écrire cette pièce.
Voilà, le décor est planté, on va en parler de ces témoignages évidemment, hein, de ces rencontres que vous avez nouées avec des survivants de la catastrophe de Tchernobyl. Vous allez nous expliquer votre démarche. On vous retrouve juste après le rappel des titres.
Jour première, François Heureux.
C'était il y a 32 ans, le 26 avril 1986, la plus grande catastrophe technologique de l'histoire à la centrale nucléaire de Tchernobyl en Ukraine. Voilà, ouverture du journal télévisé de France 2, Antenne 2, hein, à l'époque, le 29 avril 1986. Cette catastrophe de Tchernobyl, la compagnie Point Zéro, on a fait un spectacle. Ça s'appelle L'herbe de l'oubli, à voir en ce moment sur la scène du Théâtre de Poche à Bruxelles. Alors, 2 invités pour vous en parler ce matin. Léa Lefel, comédienne, et Jean-Michel Daupe, metteur en scène. Merci à tous les deux d'être avec nous ce matin. C'est quoi, Jean-Michel Daupe, la particularité de cette pièce? Comment est-ce que vous avez choisi de parler de... Parce qu'on a déjà beaucoup parlé, hein, de cette catastrophe de Tchernobyl. Quel est l'angle d'attaque j'ai envie de dire que vous avez choisi de prendre?
Alors l'angle d'attaque, il est d'abord humain. On a vraiment choisi de se rapprocher, d'aller à la rencontre des personnes qui vivent dans cette terre encore infestée, encore contaminée. Et donc le fruit de ces rencontres, ben, c'est ce spectacle. Ce sont leurs paroles que vous retrouverez sur scène. L'autre particularité, c'est que c'est un spectacle dont la démarche est complètement documentaire, et qui pour autant est réellement un objet extrêmement poétique. Ça peut paraître étonnant, mais voilà, donc il y a l'emploi de marionnettes, qui est un peu la marque de fabrique de la compagnie, donc de marionnettes pour de taille humaine en général. Il y en a des petites, il y a un peu toutes les tailles, ouais.
Il y en a même des plus grandes. Hein,
il y en a des plus, il y en a des très 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 grandes, et ben, dans une imagerie aussi assez forte, assez dérangeante, on est loin de toute l'imagerie d'Épinal, souvent associée à la marionnette. Et donc voilà, la cohabitation de ce monde un peu fantasmé et de ce monde extrêmement réel d'aujourd'hui, et ben, créer un objet théâtral.
Ouais, elles sont parfois un peu inquiétantes, même ces marionnettes. C'est voulu, j'imagine.
Enfin, je pense qu'on a des raisons d'être inquiets, sans vouloir être alarmiste. Je pense qu'on a en tout cas des raisons de se poser beaucoup de questions sur cette énergie que visiblement on ne maîtrise pas.
Ouais. Léa Lefel, vous en tant que comédienne, vous endossez quelque part la parole de gens que vous avez rencontrés là-bas. Ils parlent à travers vous.
Oui, complètement. Mmh. Et d'ailleurs, c'est un réel plaisir de les avoir rencontrés, de pouvoir porter leurs paroles et d'être chargé de toutes ces rencontres, tous ces moments vécus avec eux. Ça nous nourrit, en fait, et je pense que ça se ressent sur scène.
Ouais, expliquez-nous, vous êtes parti combien de fois et où exactement, Léa Le Fèn ?
On est parti 3 fois. La ouais. première fois, on est parti en Biélorussie 1 semaine. On est allé à Minsk, à Mogilev.
Minsk, oui,
ouais.
C'est
ça.
Vous avez, est-ce que vous avez approché le site même de la catastrophe ?
En fait, quand on est parti en Ukraine, on est allé donc à Tchernobyl même, où on a fait toute une excursion dans la zone qui est devenue vraiment une sorte de parc d'attractions. Enfin, c'est un peu rage de dire ça.
Oui, parce qu'il y a du tourisme maintenant qui est organisé sur le site de Tchernobyl.
Oui, il y a un tourisme un peu spécial, ouais. un peu voyeur,
tourisme
un peu
catastrophe.
Catastrophe. Donc il faut une accréditation, il faut passer par une agence, mais il y a pas mal de visiteurs effectivement.
Mais on rappelle que c'est interdit normalement au grand public. On peut pas pénétrer sur le site.
Non, seulement avec une autorisation préalable et avec certaines agences.
Ouais. Et qu'est-ce que vous avez recueilli comme témoignage là-bas ? Est-ce que les gens sont encore inquiets aujourd'hui, ceux qui vivent près de dans cette région, et à Le Fèn ?
Oui, ça dépend. On a des témoignages qui se contredisent, mais par exemple, on a rencontré des personnes qui vivent donc vraiment dans la zone à côté, enfin en Ukraine, près de Tchernobyl, mais quand même à quelques dizaines de kilomètres, qui sont des vieilles personnes et qui eux n'ont aucun problème, qui continuent, qui nous proposent de manger des champignons, d'un couple d'agriculteurs qui ont une ferme bio en Biélorussie, pareil à côté en bordure de zone, qui font tout un potager soi-disant bio. Et puis à côté de ça, on a rencontré des médecins qui rigolent et qui disent mais non, pas du tout, et qui sont alarmistes, qui sont contre les mesures prises par l'État, parce qu'en fait il y a eu aucune mesure prise, ou alors beaucoup trop tard. Et donc on a beaucoup de témoignages qui se...
Ouais. Vous avez pris le risque de manger des champignons et des légumes qui ont été qui ont poussé sur place ?
Pas les champignons, mais beaucoup d'autres choses. Mais pas, voilà, on nous avait bien briefé. Les champignons, vous laissez tomber. Le lait frais, vous laissez tomber. Tout ce qui est baie aussi, voilà. Après, il faut bien se rendre compte que la plupart des gens qui vivent dans ces régions n'ont pas d'autre choix que d'y vivre. Et donc, la plupart des personnes qui y vivent aussi sont des gens qui ont des revenus extrêmement modestes et donc sont obligés de cultiver la terre et de manger le fruit de cette terre. Et c'est là où se pose le problème, évidemment, parce que les sols sont toujours contaminés.
Ouais. Mais donc, il y a encore des gens qui vivent dans cette fameuse zone interdite qui, on le disait, est devenue une zone touristique, mais il y a des gens qui sont retournés vivre là.
Oui, après, il faut savoir aussi, il y a quand même une certaine hypocrisie du pouvoir d'avoir fait juste cette zone interdite d'un périmètre de 30 km autour du réacteur. Mais on sait que la contamination, elle a eu lieu, comme on dit, en tache de léopard. C'est-à-dire que, suivant les pluies, voilà, il y a des endroits qui, à 350 km, ont été aussi infectés que dans un rayon de 30 km. Mmh. Et donc, voilà, on parle de 9 millions de personnes qui vivent encore actuellement sur des terres sur lesquels il ne faudrait pas vivre. 9 millions de personnes, c'est énorme. On ne peut pas gérer 9 millions de personnes.
Ouais. Les gens vivent encore, vous venez de le dire, à cet endroit qui est encore contaminé. Bah, la nature aussi reprend ses droits. Je pense que c'est devenu même une réserve naturelle où il y a beaucoup d'animaux qui sont revenus près de Tchernobyl. Comment est-ce qu'on explique ça ? C'est un peu fou.
Bah, on appelle ça déjà la réserve naturelle radiologique de Tchernobyl. Le mot est déjà tout à fait splendide. Mmh. Mais on explique ça d'abord parce que le principal prédateur n'est plus là. L'homme n'y est plus, donc effectivement, la durée de vie de ces animaux, en général, ne dépasse pas 10-15 ans. Donc, très peu d'animaux ont le temps de développer de réelles maladies. Donc, oui, il y a des chevaux sauvages, il y a des lynx, des loups, il y a toutes sortes d'animaux. Voilà, nous, quand on était en bordure du réacteur, à une centaine de mètres, il y a un renard qui est venu nous demander du pain, comme le ferait un petit chien, un petit chat. C'est étonnant.
Ouais. Il existe encore ce fameux réacteur numéro 4. Qu'est-ce qu'on en a fait finalement, Léa Le Fèn ?
Ils ont fait un sarcophage, en fait. Ils l'ont terminé. Et ça va tenir 100 ans.
Ouais.
Et donc, l'humanité a 100 ans pour savoir qu'est-ce qu'on va faire après, qu'est-ce qu'on va remettre au-dessus de ce sarcophage.
C'est toujours le problème du nucléaire, c'est on cache. Donc ils ont d'abord construit un premier à la va-vite, un premier sarcophage qui a tenu 30 ans, mm-hmm. et puis on en fait un deuxième, mais le fond, il y a toujours des choses,
il y a toujours du gaz,
des déchets nucléaires. On sait pas exactement ce qu'il y a, parce que les robots deviennent fous, on peut pas y envoyer des humains, et donc on cache, c'est le principe des poupées russes en fait, on cache, et ainsi de suite, au lieu de régler le problème, et c'est très inquiétant.
Parce qu'il est très impressionnant ce fameux sarcophage. chauffage, je pense qu'il a fallu des milliers de tonnes pour le construire. Il culmine à combien de mètres de haut? Enfin, je pense que vous l'avez vu, donc c'est une construction assez impressionnante. Quelles impressions vous avez ressenties, vous, Léa Lefel, en allant sur place, une espèce de zone fantôme, abandonnée à la va-vite? On voit encore des traces de ce que les gens ont dû abandonner tout de suite.
Oui. Après, il y a quand même dans la zone même, donc à Pripyat, quand on a vraiment visité Tchernobyl, il y a quand même j'ai trouvé qu'il y avait quand même une espèce de mise en scène catastrophe. Et c'est vraiment quand on est sorti de cette zone et qu'on a vraiment rencontré des personnes qui y vivent encore, là, ça m'a vraiment touché, en fait, de partager un repas avec des personnes qui y vivent et qui, parce que en soi, être devant le sarcophage, enfin, j'ai pas ressenti une émotion, oui, à part, de la peur. Enfin, je pensais au Japon aussi. Enfin, j'ai pas.
Et est-ce que les habitants sur place sont conscients des dangers qu'ils encourent encore aujourd'hui du point de vue de leur santé? Vous avez ressenti, vous, des craintes, une conscientisation, ou bien est-ce qu'ils vivent de manière totalement normale, sans?
Mais ils vivent quand même de manière tout à fait normale parce qu'en fait, ils ont pas le choix. Et donc, d'ailleurs, ils sont très heureux. Enfin, ils sont pleins de couleurs, pleins de vie. Et donc, par rapport à tous les documentaires qu'on a pu voir, tous les livres qu'on a pu lire avant de partir, où c'était très noir, mais finalement, on est arrivé là-bas et c'est plein de couleurs. C'est des gens qui sont gays, qui font la fête, qui respirent le bonheur. Et en fait, heureusement, parce que sinon, ils arrêtent de vivre. Enfin, ils n'ont pas le choix, ils ne peuvent pas partir.
Et cette parole des survivants de la catastrophe de Tchernobyl, on peut la voir, hein, sur scène, ça s'appelle l'herbe de l'oubli. Vous êtes là pour nous en parler, Léa Lefel, Jean-Michel Daube. On vous retrouve juste après.
Jour première, François Heureux.
L'herbe de l'oubli, une pièce de théâtre, un spectacle documentaire sur la catastrophe de Tchernobyl, sur les témoignages des survivants de cet accident nucléaire, témoignages que l'équipe du spectacle a recueillis en Ukraine et en Biélorussie. Léa Lefel, vous êtes l'une des comédiennes de cette pièce. C'est pas la même chose de jouer dans une pièce documentaire que dans une pièce, je dirais, classique de théâtre avec une histoire, un début, un milieu, une fin?
C'est sûr, oui, ça demande un engagement social, enfin, oui. Ben.
C'est plus prenant, c'est plus intime peut-être aussi pour vous de jouer ce genre de rôle.
Oui, complètement, parce qu'on est animé par les rencontres qu'on a faites, par nos voyages, donc ça résonne autrement en nous et je pense même que les textes et les témoignages. Résonne aussi autrement.
Ouais. Jean-Michel Daube, vous l'avez dit, vous avez emmené toute l'équipe pour 3 voyages en Ukraine et en Biélorussie à la rencontre des habitants. Vous êtes basé aussi sur un livre, La Supplication, c'est ça? Alors, qu'est-ce qu'il apporte, ce livre, dans la pièce?
C'est un livre très très fort, donc, de Svetlana Alexievitch, qui est prix Nobel de littérature. On ne s'est pas basé réellement dessus, mais disons que c'est un livre qu'elle a écrit justement en allant à la rencontre, elle aussi, des personnes, des survivants de la catastrophe. Et c'est un livre qui est d'une force extrême, tant les témoignages sont forts, et tant sa manière d'en parler élargit le débat et amène la chose à dépasser, à être pour ou contre le nucléaire, mais à voir ça sous l'angle de l'humain. Qu'est-ce que c'est d'aujourd'hui laisser des déchets qui vont rester radioactifs pendant 100 000 ans?
Ouais.
Qu'est-ce que c'est? C'est énorme par rapport à un humain.
C'est du théâtre documentaire. Vous en avez déjà fait à propos du commerce des armes dans votre pièce précédente, Gun Factory. Pourquoi est-ce que vous aimez ce genre-là, Jean-Michel Daube?
C'est une recherche théâtrale aussi. Je crois qu'il y a peut-être une conscientisation qui vient maintenant, c'est tard peut-être, mais mieux vaut tard que jamais. Je pense que j'ai des enfants, j'ai envie de aussi parler de la planète, poser des questions par rapport à des choses que je trouve qui sont trop occultées, qui ne posent pas suffisamment de questions, qu'on est fort dans une société toujours du court terme. Voilà, on profite, on consomme, on profite, on consomme, et on se pose jamais la question de savoir ce qu'on va laisser au suivant.
Ouais, c'est une pièce engagée.
C'est une pièce engagée, et à la fois, pour autant, ici, on l'a vraiment abordée du côté de l'humain. Donc, on n'est pas dans le militantisme non plus. On propose peut-être au spectateur de le devenir après, mais libre à chacun de faire son trajet par rapport à ça. Ça reste un objet extrêmement poétique, extrêmement humain.
Ouais, l'herbe de l'oubli, ça parle évidemment de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. On s'écoute un petit extrait de l'époque et on revient après.
Je crois que d'abord, il faut rassurer les Français. Le nuage dont vous avez parlé tout à l'heure est un nuage dont la radioactivité, de toute façon, ne comporte pas de danger pour la population. Il est un taux de radioactivité qui est faible par rapport à celui qui aurait des conséquences sur la santé de la population.
Lors de l'accident, un anticyclone se trouvait sur l'Union soviétique. Autour des hautes pressions, on sait que les vents s'enroulent dans le sens des aiguilles d'une montre. Les particules radioactives sont alors dans un premier temps remontées sur la Pologne, puis elles ont continué leur chemin et atteint en 48 heures les pays scandinaves. Depuis lundi, la situation n'a pas changé. Ces particules sont donc de plus en plus nombreuses à atterrir sur la Suède.
Voilà, extrait de la télévision française de l'année 1986, je vous vois sourire, rire même. C'est vrai qu'à l'époque, on a dit, en tout cas en France, que par des phénomènes météorologiques très favorables, eh bien le nuage radioactif avait évité la France. Donc déjà, à l'époque, il y avait beaucoup d'aveuglement sur les conséquences de ces catastrophes, Jean-Michel Daube.
Oui, je pense que tout ce qui concerne le nucléaire, provoque devant tout n'importe quel gouvernement, n'importe quelle autorité, un problème majeur parce que en réalité personne n'est capable de savoir quoi faire. Ce n'est pas les petites pastilles d'iode qu'on nous propose régulièrement qui vont réellement régler notre santé et faire que tout va bien, etc. Je pense que voilà, on se retrouve face à des millions de personnes, à des dizaines de milliers de kilomètres carrés infestés. Qu'est-ce qu'on fait? Comment gérer un problème de cette taille-là? En réalité, personne ne le sait. Donc la France a menti, l'URSS a menti, mais je suis certain qu'en Belgique, si ça arrivait, on nous mentirait aussi, parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Et donc voilà, se pose la question de cette sortie du nucléaire.
Vous éprouvez de la crainte par rapport à cette énergie nucléaire, il y a le fait.
Oui.
Oui.
Oui, moi beaucoup.
C'est la raison pour laquelle vous êtes investi dans cette pièce
Oui, après, c'est parce qu'on... Enfin, oui, aussi... Mais je veux dire, c'est parce que si on travaille ensemble avec Jean-Michel, qu'on a fait le précédent projet et qu'on est assez, tous, on est des acteurs quand même assez engagés dans notre démarche politiquement aussi, donc on a des positions. Donc je pense qu'à la base, c'est ça. Et après, évidemment, sur le sujet, j'ai mon avis et c'est sûr que le nucléaire, ça me fait peur énormément. Je suis pour une sortie du nucléaire et que le gouvernement fasse son rôle.
On l'entend, hein, c'est une pièce évidemment qui est ancrée très fort, hein, puissamment dans l'actualité du jour, de la semaine, du mois. On en parle beaucoup, hein, de ce pacte énergétique qu'on va développer en Belgique. On va en parler avec vous dans la dernière partie de l'interview, Léa Leffel et Jean-Michel Daube. Vous restez avec nous. Le nucléaire aujourd'hui en Belgique, c'est la question que votre pièce L'herbe de l'oubli pose à voir sur la scène du théâtre de Poche.
Jour première, François Heureux.
L'herbe de l'oubli, c'est une pièce de théâtre documentaire sur la catastrophe de Tchernobyl et ses conséquences aujourd'hui. Pièce que vous avez mise en scène, Jean-Michel Daube. Alors, vous avez un lien personnel, j'ai envie de dire, avec cette catastrophe de Tchernobyl, puisque vous accueillez chaque année un enfant de là-bas.
Oui, ça fait 2 ans que, grâce à l'association Les Enfants de Tchernobyl, on accueille un petit garçon de 10 ans qui s'appelle Artyom et qui vient de Bragin. Donc c'est à 30 km de la centrale de Tchernobyl et il vit là-bas. Et donc c'est une association qui propose à des familles belges d'accueillir pendant les mois d'été, pendant un mois, un enfant de Biélorussie. Et parce qu'il faut savoir qu'en un mois, en changeant leur alimentation principalement, ces enfants perdent de 30 à 50% de leur taux de césium. Et donc voilà, oui, c'est un peu ça qui a aussi motivé notre volonté de faire ce spectacle.
Il y a encore beaucoup de maladies liées à la catastrophe aujourd'hui là-bas sur place.
Énormément. Le taux de mortalité est terrible. Toute forme de cancer. Oui, non, c'est terrible. Il y a des enfants qui naissent encore mal formés aujourd'hui. C'est catastrophique.
Est-ce qu'on peut dire que votre pièce de théâtre est une pièce militante, d'une part, et militante anti-nucléaire?
Mais pas tellement, en réalité. Nous, on est là, vous savez, vraiment, je pense qu'on considère notre métier comme... on est là pour poser des questions, on n'est pas là pour apporter des réponses, on n'a pas cette prétention-là. Voilà, c'est pas notre rôle, d'ailleurs. Nous, on est là pour éveiller la curiosité, susciter le débat, et c'est vraiment comme ça qu'on envisage le métier. Donc, le spectacle, on parle tout le temps, effectivement, il est complètement documentaire dans la démarche, mais au final, ça reste complètement un produit artistique.
Ouais. Mais ce qui est quand même pas un message, Léa Leffel, de dire attention, ça pourrait aussi arriver chez nous ?
Bah, oui, clairement, ça pose des questions sur les déchets, sur le nucléaire, sur tout ça, mais on pose des questions. Après, on a tous une position, un avis personnel, mais on le met pas, quoi, on l'étale pas.
À partir du moment où ça a eu lieu dans le pays le plus au point, le plus au niveau technologique, au Japon, je ne vois pas pourquoi ça n'arriverait pas en Belgique. Enfin, je veux dire, en tout cas, on est en droit de se poser des questions quand on parle de prolonger sans arrêt la durée de vie de nos centrales. Bah oui, ça pose question.
Ouais. Vous évoquez Fukushima, justement. Pourquoi avoir décidé de faire quelque chose sur Tchernobyl et pas sur Fukushima, qui est, c'est vrai, on le sait, un peu plus frais dans les esprits aujourd'hui?
Mais je pense que justement, l'herbe de l'oubli, c'est pour parler de... On oublie très vite, et je pense que le lobby nucléaire fait un excellent travail pour renforcer ce fait-là. Mais voilà, il y a toujours aujourd'hui, il y a des terres qui sont contaminées pour 100 000 années. Enfin, 100 000 ans, mais qu'est-ce que c'est? Les pyramides n'ont pas 5 000 ans, on pensait qu'on ne rentrerait jamais dedans. Et là, voilà, on parle de choses qui devraient être désertées par l'homme pour 100 000 ans. Bah oui, il faut se poser des questions, et je pense que Tchernobyl alors était plus intéressant parce qu'on a plus de recul sans doute que Fukushima.
Est-ce que vous avez invité des membres du gouvernement fédéral à venir voir votre pièce?
Alors ils sont invités, mais viendront-ils ou viennent-ils en catimini? On ne sait pas. Voilà, mais toujours est-il que demain il y a un débat au théâtre de Poche, oui, sur la sortie du nucléaire. On sait que Jean-Marc Nollet sera là, ainsi que pas mal de scientifiques, des pros, des contre, et donc le donc, débat
Jean-Marc
promet.
Jean-Marc Nollet qui est plutôt contre,
oui, hein,
qui est pour la sortie, position écolo voilà, au fédéral. Mais vous ne savez pas donc si par exemple la ministre en charge de l'énergie, Marie-Christine Marguem, viendra voir la pièce.
Elle est invitée et je réitère l'invitation. Ouais. Si jamais elle nous écoute, venez.
Donc c'est aussi un message finalement à l'encontre du gouvernement belge aujourd'hui.
Oui, il y a une crise. La critique de la Libre Belgique commence par la pièce que tout le gouvernement devrait venir voir.
Voilà, l'invitation est lancée. Jean-Michel Daupe et Léa Lefel, merci beaucoup d'avoir été nos invités ce matin. Et on rappelle donc aux membres du gouvernement, s'ils nous écoutent, que l'herbe de l'oubli se joue en ce moment au Théâtre de Poche à Bruxelles jusqu'au 3 février. Si mes souvenirs sont bons, vous hochez de la tête, donc mes souvenirs sont bons. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.
Merci à vous.
Bonjour Véronique Thibérien.